Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Faugiel.
19h19 sur RTL, lors de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Nicolas Domenac, comme tous les lundis. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Avec l'écrivain Denis Thélinac. Bonsoir Denis.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec le politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse. Bonsoir Roland Cayrol.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et avec un chef d'entreprise contributeur au Wall Street Journal. Il vit en partie donc à New York. Bonsoir Romain Atuel.
Bonsoir Marc-Olivier.
On va démarrer, vous l'avez entendu dans le journal de 19h, par les provocations de Robert Ménard. Nouvel épisode donc après la photomontage d'un train en direction de Béziers rempli de réfugiés avec ce titre « Ils arrivent » en une du journal municipal. Eh bien, vous l'avez entendu, Robert Ménard s'est rendu vendredi dans un appartement de sa ville pour expulser lui-même une famille syrienne. Vous avez entendu l'extrait tout à l'heure donc dans le journal. Finalement, le maire est reparti. Selon l'opposition, aucun avis d'expulsion n'avait été émis. Alors, où s'arrêtera Robert Ménard dans ses provocations? Vous choque-t-elle ou pas du tout? Finalement, il dénonce une réalité et il a bien raison de le faire. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret de LCI.
Bonsoir. Bonsoir. Pour beaucoup, Robert Ménard est fou. Je ne vois pas d'autres mots, confesse Thibault. Non, monsieur Ménard tient vraiment à faire carrière en politique. Béziers ne lui suffit plus. Il vise plus haut, soupçonne Louis. Mais réveillons-nous. Ménard continue de bafouer les règles républicaines, explose Ludo. Les préfets peuvent destituer ou suspendre les maires. Que fait celui de l'Hérault, demande Sécage, puisqu'Arminator rappelle en effet que toute expulsion menée par des particuliers sans décision de justice est constitutive d'une voie de fait plus violation de domicile. Eh oui, après reporter sans frontières. Robert Ménard invente maire sans dignité, soupire Jo. Sauf que s'il a été élu, c'est qu'une majorité de Biterrois pense comme lui, rétorque Jackie. Oui, des électeurs qui ont pour seul credo la haine de l'autre. Il peut tout se permettre, confirme Nicole, amère. Je ne lis que des insultes, pas d'arguments. J'en conclue que monsieur Ménard a mis dans le mille. Béziers est la dernière ville gauloise qui résiste, applaudit Michel. Au moins avec Ménard, les choses sont claires. Je vais déménager à Béziers, approuve aussi Cassine. Des cimètres préfèrent citer Maurice Garçon. Pour finir, il trouve que cet extrait décrit bien Robert Ménard, il se venge férocement de n'être rien sans comprendre qu'il ne méritait pas d'être quelque chose.
Robert Ménard, qui en tout cas réussit quelque chose, c'est qu'on parle de lui, hein, puisqu'on le fait ce soir après s'être posé la question. Mais en même temps, voilà, Robert Ménard qui provoque et peut-être fait réfléchir aussi. Nicolas Domenac, vous appelez ça comment d'abord les tentatives de Robert Ménard pour être dans le débat public. Hein.
Je crois que c'est un truqueur, c'est un faussaire. Il en a donné une bonne illustration avec sa photo manipulée, sa vidéo également. Il s'agit toujours des mêmes mensonges, hein, c'est-à-dire de, au fond de transformer des détresses en menaces pour l'humanité bien de chez nous. Hein. C'est-à-dire, au fond, il nous raconte que tous ces gens-là viendraient faire du tourisme social, prendre notre pain, nos femmes, nos enfants, etc. C'est toujours le fantasme de l'extrême droite du grand remplacement hein, qui serait en jeu, là, et dont il, Robert Ménard, voudrait nous protéger. Et alors, je trouve ça non seulement dégueulasse, mais en plus méprisant pour le peuple français. Parce que le peuple français, je veux dire, c'est pas des Indiens qui vont se faire, comme ça, submerger par une vague fantasmatique, hein, qu'il agite devant nos yeux. Donc, moi, je trouve ce personnage, en même temps, dangereux, parce qu'au fond, un maire, c'est un représentant de la République. Il est là pour apaiser. Il est pas là pour exacerber les tensions. Oui, mais il est pas là pour exacerber les tensions. C'est pas son boulot. Je veux dire, or, s'il veut faire la guerre civile, il a qu'à continuer comme ça.
Denis, Thélinac, vous le connaissez, Robert Ménard ?
Je le connais très bien. Si tous les élus de France étaient aussi courageux, sincères et droits que Ménard, je pense qu'on se porterait mieux, y compris dans nos...
Je vous préférais quand vous défendiez Jacques Chirac.
Oui, mais y compris...
Le Gaulois qui...
On peut finir une fois. Non, j'ai entendu la coulée de moraline. Bon, maintenant...
C'est pas de la moraline.
Ménard fait partie des gens, à tort ou à raison, qui estiment que les flux migratoires, depuis 4 décennies, dans ce pays, suscitent mérite de susciter au moins un débat. Il a commis un acte, j'allais dire, peut-être de provocation, mais un acte symbolique pour exprimer l'avis de nombreux, de très nombreux maires qui se refusent eux aussi à accueillir ce qu'on appelle des réfugiés. Certains le sont, d'autres le sont moins. Il n'y a pas... Ça, j'ai bien vu le discours médiatique depuis 3-4 jours. Il y a les maires généreux hein, qui sont prêts à accueillir les réfugiés dans leur mairie, pas dans leur domicile. Et puis il y a les maires au cœur sec qui demandent à réfléchir. Quels réfugiés? Combien? Jusqu'à quand? qui viendra de...
Et puis il y a ceux qui veulent les expulser alors qu'ils n'ont pas d'avis d'expulsion.
Alors que le... Non, il est évident qu'il s'agissait d'un acte symbolique. Bon, Robert Ménard fonctionne comme ça, par coup de symbole, mais malheureusement, dans un système médiatique, il faut... C'est la photo du petit garçon turc tué a altéré des décisions politiques. Quand on était là, ben, on est bien obligé de jouer le jeu de l'émotion médiatique. Ce qu'il l'a fait, et je pense qu'entre 70 et 80% de ce peuple qu'il est censé mépriser pense comme lui sur le sujet.
Vous êtes ventriloque en plus.
Oui, je ne suis pas ventriloque.
Bah,
du tout,
vous savez que 80% du peuple pense comme lui.
Bah, En tout cas, une coalition de RPR, d'UMP et de socialistes ligués contre lui, lui a pas empêché, sans pognon, de se présenter, et sans passé politique autre que trotskiste dans ses jeunes années, de se faire élire très confortablement à la mairie, et récemment de faire élire des conseillers généraux proches de lui. Donc il doit représenter quelque chose, puisque vous disiez qu'il était rien, avec un mépris très rive gauche.
Moi, je connais aussi bien Robert Ménard depuis des années. Il m'est même arrivé de refaire Le Monde ici avec lui. Il était sur des positions d'une espèce de gauche libertaire.
Il dirigeait Reporters sans frontières à l'époque.
Il était directeur général de Reporters sans frontières. Et son président, Noël Coppin, journaliste, me disait « Il est bizarre comme mec, mais il faut bien reconnaître qu'il fait le job ». Il faisait le job en étant déjà givré et un immense provocateur. Et ça lui a servi dans ce genre de boulot associatif de savoir être un immense provocateur. Puis il a dérivé, il est devenu un républicain national à la Elisabeth Lévy ou Zemmour et il a continué sa dérive en se faisant investir par le Front National et devenir maire de Béziers. Et ça ne lui suffit pas.
Pas investi, soutenu, c'est pas pareil.
Investi.
Par Dupont-Aignan aussi.
Ça s'appelle investi. Ouais. Et il est toujours soutenu, et il a même dans sa municipalité des gens du bloc identitaire qui sont bien plus à droite que le Front National. Et il est devenu bien plus énervé que le Front National, mais il a gardé son côté givré et immense provocateur. Ce qu'il a fait aujourd'hui, remarquez, ça me choque pas plus que s'il avait envoyé les flics. Au moins, on peut lui reconnaître qu'il y va, qu'il se fait filmer, qu'il parle aux gens, et il n'y a pas eu de voix de fait. Mais ça prouve à quel point la provocation peut arriver à amener à des dérives graves pour des élus républicains. Parce que Denis nous dit, il y a les maires gentils qui acceptent, et puis il y a les autres qui disent « je veux réfléchir ». Mais il ne veut pas du tout réfléchir. Il veut qu'ils foutent le camp tout de suite. Il ne veut même pas leur donner un mois. C'est un type qui a oublié toute référence à l'humanisme, je dirais à l'humanité.
Denis, non, mais c'est pas... Oui.
Bah si, c'est le débat.
Qui répondra à ça? Il n'est pas moins humaniste que Roland, simplement, il est plus franc. Il a voulu monter un acte symbolique. Effectivement, il y a beaucoup de maires qui pensent que ça serait de la folie d'accueillir des réfugiés, je mets des guillemets, parce qu'il y a des réfugiés qui fuient effectivement l'Irak et la Syrie en guerre, et puis il y a aussi, s'intercale pas mal de gens qui viennent.
Je voudrais juste revenir un peu sur le débat, un peu sur les faits. Je vous laisse.
Lançons le débat, mais ne nous en prenons pas à la moralité supposée de Robert Ménard. Je le connais bien, sa moralité est exemplaire.
La moralité,
attendez,
jamais dit que Roland Kerol ou Nicolas Dommage sont amoraux.
La moralité, c'est une valeur subjective.
Le danger des plus migratoires.
Allez, Romain, si vous voulez bien, on va juste passer la pub et je vous passe la parole après. Allez, à tout de suite.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
On refait donc le monde à 19h30 sur RTL avec Nicolas Domenac, Denis Tillinac, Roland Kerol et donc Romain Atuel. Les dernières provocations de Robert Ménard.
Je voudrais juste revenir un peu sur les faits, parce qu'on a parlé que de Ménard.
Ouais.
Moi, j'ai rien contre les provocateurs personnellement. Au contraire, j'aime bien. Ménard, je pense qu'il est passé du côté obscur il y a un certain temps et qu'il a cessé d'être respectable à la énième provocation ignoble dont il s'est rendu coupable. Mais je pense quand même que là, on parle de deux choses un peu différentes. La une du magazine municipal, je l'ai trouvée immonde. Voilà. Je trouve que c'est absolument scandaleux. J'espère que c'est passible de la loi, d'une loi, je ne sais pas laquelle. Et si c'est le cas, j'espère bien qu'il y aura des suites judiciaires et une condamnation.
Par l'AFP.
Bon. S'agissant des images de ce matin, moi, personnellement, je ne les trouve pas scandaleuses. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai toujours été viscéralement opposé au squat, qui est une pratique qui, en France, pour une raison que j'ignore, jouit d'une espèce d'indulgence. Et je ne la comprends pas, cette indulgence. Le squat, il faut bien être clair, c'est du vol. c'est du vol de loyer aux propriétaires des lieux. C'est du vol d'opportunités de logement. Je crois savoir qu'il s'agit de logements sociaux à ceux qui pourraient y être logés dans des conditions légales. Donc, je ne vois pas l'indulgence des squatteurs en général, hein, en l'occurrence. Et de manière plus générale, je n'aime pas qu'on justifie des délits ou des crimes en invoquant la misère humaine. Quand il y a des situations de misère humaine, c'est au pouvoir public de faire quelque chose. Ce n'est pas aux misérables de se faire justice eux-mêmes. Mais sous prétexte que c'est Ménard qui a fait ça, d'ailleurs il a été assez précis, Ménard, il faut regarder les images, il dit « vous n'êtes pas les bienvenus dans ces conditions ». On ne fracture pas les portes, on n'entre pas dans un appartement sans payer.
On a passé la vidéo tout à l'heure.
Il est assez précis. Et moi, personnellement, je n'ai rien à redire, sauf que c'est Ménard. Ça aurait été un socialiste à poigne, entre guillemets. J'aurais très bien pu imaginer un Valls faire ça.
Ça mis en scène.
J'aurais pu imaginer un Cazeneuve faire ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, le message n'aurait pas
été
choquant.
Sur le message, Nicolas de Ménard.
Parce que l'homme est immonde que tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit l'est également.
On peut effectivement réprouver les squats. Moi, je ne les approuve pas, mais. Est-ce qu'on sait qui sont ces personnes qui sont dans cet appartement ? D'où ils viennent ? Est-ce que l'on sait qui les a installés là ? Est-ce que l'on sait qui les a installés là ? C'est un autre élu qui leur a ouvert la porte, semble-t-il. Est-ce que l'on sait qu'ils ont fracturé ? Je veux dire, il y a toute une série d'éléments dont on ne dispose pas, alors qu'ils les présument coupables. Ils les présument coupables.
Ils sont en situation illégale dans ce logement.
On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Ils les présument coupables. Ils ne présument qu'ils ne sont pas réfugiés, qu'ils n'ont pas demandé d'asile, etc.
Donc ils ont un bail en venue du fort, mais ils payent leur loyer. C'est un scoop.
Non. On en fait comme ça des boucs émissaires faciles, sans savoir de quoi il s'agit. Je trouve vraiment ce type de pratique totalement expéditive. Il n'y a qu'à les lyncher pendant qu'on y est.
Il n'a jamais été question
de ça. Alors je termine en disant que moi, quand j'entends alors le plaidoyer absolument enthousiaste de notre ami Tidignac, je me dis, mais au fond, il a trouvé un nouveau candidat pour l'élection présidentielle et je ne comprendrai jamais comment il a pu soutenir à ce point Jacques Chirac autrefois, qui était vraiment l'opposé au Front National, qui s'est construit contre le refus de la xénophobie.
Ah, parce que vous lui posez la question, il va vous répondre, Denis.
Vous avez écrit des livres formidables.
Je ne suis pas le moins de monde xénophobe, raciste.
Je ne vous parle pas de vous, je parle de votre révolution.
Je n'ai pas dit non plus, d'ailleurs, que toutes les initiatives de Robert Ménard, je les approuve. On dit Robert Ménard, je lis partout, soutenu, présenté par le Front National. Mais jamais M. de Tartampion, élu socialiste, soutenu, présenté ou soutenu par les communistes. Non,
le Front National. Jamais fait pareil. Hein.
Ah bon, d'accord. Ah moi, pour moi,
non,
c'est pire. Mais bon, mais on ne le met jamais. Non, simplement, je m'insurge contre le fait qu'à nouveau, une espèce de diabolisation selon les procédés de l'inquisition médiévale a lieu contre Ménard. Bon, avec les Le Pen, ça marche de moins en moins. Hein.
Non, mais Denis,
et je sais que c'est un mec bien, je le connais,
non,
je défends sa personne.
Pardon, Denis,
je
un maire d'une ville,
élu,
quel qu'il soit,
pas de politique.
Un maire d'une ville, quel qu'il soit, quelle que soit son étiquette, quels que soient les partis qui l'ont soutenu, qui utilise un magazine municipal pour, au moyen d'une photo détournée et retouchée, jeter l'opprobre sur des réfugiés politiques, ou appelons-les comme on veut, vous trouvez ça respectable ?
Non.
Vous ne pouvez pas prendre sa défense là-dessus, au moins, sur cet élément précis.
La réponse, et le fait même la réponse en scène de cette façon, son intervention, parce que tout de même, on l'a appris comment, on a vu les images comment, parce qu'il se fait accompagner par un traducteur, certes, parce qu'il ne parle pas l'anglais, semble-t-il, mais aussi par quelqu'un qui filme, et il le met lui-même,
La réponse de Tidignac change de sujet.
C'est ça qui est honteux. Nicolas Domenac a dit il est rien, comme ça, avec mépris. Ben si, la réponse, c'est qu'il représente quelque chose qui va au-delà de Béziers. Voilà pourquoi ça vous apporte. Voilà pourquoi sa symbolique est importante.
Il peut être un salaud et représenter quelque chose, Denis.
Il incarne une autre façon de faire la politique. Vous verrez qu'il ne sera pas le seul, à droite comme à gauche, d'ailleurs.
Allez, on change de sujet, même sur le fond des réfugiés qui n'est donc pas à Béziers, mais qui sont désormais bloqués à la frontière allemande. On en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchel.
On refait le monde à 19h38 sur RTL avec Romain Atuel, Roland Kayrol, Denis Tillinac et Nicolas Domenac. L'Allemagne et l'Autriche ont donc rétabli le contrôle aux frontières. Une décision temporaire selon le ministre de l'Intérieur allemand qui se justifie. Son pays n'a plus les moyens d'accueillir les réfugiés et l'Europe doit mettre en place donc des quotas obligatoires de toute urgence. C'est justement l'objet de la réunion qui est en train de se tenir à Bruxelles avec les ministres de l'Intérieur. Alors, la volte-face d'Angela Merkel vous surprend-elle? À quoi joue la chancelière sur les réseaux sociaux, Benoît?
Plutôt surpris, oui, pour Nicolas. Merkel est comme une ado qui organise une soirée Facebook qui dégénère, puis ferme sa porte et demande aux voisins de gérer le chaos. Non, mais après avoir crié haut et fort au scandale et qu'il fallait accueillir toute la misère du monde, elle va fermer les frontières, c'est tout zélote. Pas fermer, mais les contrôler, précise Philippe. En tout cas, elle donne raison à Le Pen et Dupont-Aignan, remarque Vigneault. Non, pour le républicain Guillaume Larrivée, la décision de Madame Merkel valide très exactement l'analyse de Nicolas Sarkozy. Ah bon, elle a parlé de fuite d'eau, demande Antonis. Merkel fait bien pire que Marine Le Pen. Pour un dirigeant, l'inconscience est une faute, un crime, assure Sylvain. C'est quand même fou, pratiquement un sans faute pendant des années. Et en une fois, elle ruine sa réputation d'excellence. C'est tragique, se désole Francis. C'est pas une erreur, mais un plan machiavélique, selon Dominique. Elle veut modeler l'opinion allemande en vue d'un resserrement de Schengen par la conscience des risques d'une ouverture démesurée. En tout cas, le douaisien moque ce Bernard Cazeneuve qui approuve le choix de Merkel, mais trouve stupide le même choix quand il vient du FN sur les frontières. Je ne sais pas si elle donne raison au FN, conclut Christiane, mais elle prouve que François Hollande a été clairvoyant en s'engageant sur des chiffres raisonnables.
Alors Bernard Cazeneuve est en train de s'exprimer, on va l'écouter tout à l'heure. Roland Kayrol, donc Angela Merkel qui finalement rétropédale d'une certaine manière.
Non, je crois qu'il faut se calmer. C'est pas du tout ce qu'elle a annoncé. Hein. Elle a dit que les frontières restaient ouvertes pour ceux qui auraient le statut de réfugiés, et qu'en revanche, pour l'ensemble du courant migratoire, pour le moment, les entrées étaient arrêtées le temps que l'Allemagne absorbe quelques-uns de ces milliers de personnes. Ils sont 63 000 à Munich. Le maire de Munich, qui est déjà pas très pour, il est forcé de mettre les gens sur des tapis devant les gares, et il ne veut pas traiter comme ça des migrants. Donc ce que fait Merkel, c'est qu'elle veut gagner quelques jours pour essayer de mieux organiser les choses. Elle n'est pas du tout revenue sur ses positions fondamentales. Ne disons pas, elle revient en arrière ou elle parle comme le Front National.
Non, personne ne dit ça non plus.
Grave... Hein. Ben, on a entendu chez les internautes. Mmh. Et puis, très évidemment, elle veut faire pression sur les autres pays européens et notamment sur les pays d'Europe centrale.
Pour les quotas.
Qui sont autour de la Hongrie, les anciens pays communistes, des pays qui ont formidablement bénéficié à un moment de l'accueil des réfugiés. Pensez aux Hongrois, pensez aux Juifs d'Europe centrale de partout. Heureusement qu'on leur a pas dit à ce moment-là, il n'y avait pas d'accord de Schengen, venez pas chez nous. Donc elle veut faire pression et elle va se servir de ces quelques jours pour essayer de faire que les pays de l'Est changent un peu d'avis sur la question des réfugiés.
Romain.
Écoutez, il y a une époque où en argot, on appelait un avocat un bavard. Et
ça continue.
Tous ceux qui critiquent Merkel sont vraiment des bavards. Ils n'ont rien fait, ils n'ont quasiment rien proposé, ou des imbécilités comme Sarkozy avec son histoire de réfugié de guerre qui ne veut rien dire et qui n'a aucun intérêt, à part de faire une petite œillade au Front National au passage. Merkel est un grand dirigeant européen, à mon sens, et surtout un dirigeant qui agit et qui prend des risques. Et en France, on ne peut pas dire qu'on ait une surreprésentation d'hommes politiques courageux et à même de prendre des risques. Elle a pris un risque, elle a d'ailleurs déclenché, elle a lancé en quelque sorte un signal d'alerte et un signal d'accueil des réfugiés qui a déclenché toute cette prise de conscience européenne à laquelle on a assisté depuis une quinzaine de jours. Ça, je lui en donne complètement le crédit. Qu'aujourd'hui, elle croit nécessaire de maîtriser un peu le flot par les mesures qu'elle a prises et qu'elle a annoncées, et qui, vous avez raison, Roland, ne remettent en rien en cause ce qu'elle a dit, me paraît pas malsain. Si elle s'est un tout petit peu précipitée, c'est pas très grave. Voilà quelqu'un qui agit, qui prend des risques, et pour moi, un exemple pour les autres leaders européens.
Mais pour dépasser Angela Merkel, quand vous voyez que l'Autriche et la Slovaquie rétablissent des contrôles, Denis Tinac, vous pensez que Schengen a vécu ?
Bon, il y a longtemps que je pense que Schengen mérite d'être repensé. Et effectivement, les pays d'Europe centrale nous y obligent. Je suis assez d'accord sur l'idée que Merkel est globalement un grand dirigeant. Bon, j'observe avec amusement qu'il y a encore un mois, elle passait pour un monstre de froideur prussienne qui étranglait le pauvre peuple grec. La semaine dernière, on proposait presque sa béatification au pape François parce que 800 000 les réfugiés, l'Allemagne pleine de cœur. Bon, il y a un peu de rétropédalage pour des raisons
techniques,
mais ça ne sera pas sans conséquences politiques. Ça grince un peu partout. La CSU, qui était quand même son partenaire le plus important, c'est-à-dire la CDU bavaroise, les démocrates chrétiens bavarois, se montrent les dents, à l'image du maire de Munich, parce que bon, que faire de ces gens? Jusqu'à quand? Combien? Elle a dit 800 000, pourquoi pas 1 million, pourquoi pas 2 millions, pourquoi pas, on ne sait pas. Donc, je pense que après le geste est... Oui, le geste est généreux, mais après, il y a le moment où on va se demander qu'est-ce qui va devenir de tout ça sur la durée.
Et qu'est-ce que ça va devenir aussi dans la droite française? Parce que la fracture qu'on relève au niveau européen, avec d'un côté la Hongrie, la Pologne, etc., on la retrouve au niveau français, dans la droite française, qui est complètement écartelée entre ceux qui sont pro-Viktor Orban, hein, qui disent qu'il faut fermer tout et n'ouvrir rien, surtout pas ses bras ni son cœur, aux réfugiés, et puis ceux qui, de Alain Lamassoure à Jean-Pierre Raffarin, disent que les humanistes... Elles sont dans une situation de grand écart qui peut risquer, au fond, la déchirure musculaire.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord sur ce constat, mais pas d'accord. J'ai bien compris qu'Orban est également un monstre comme Ménard. C'est ça.
Non, c'est un peu pire. Vous l'avez bien compris.
C'est pas ce que vous pensez, Denis? Pas de Ménard, mais d'Orban.
Non, je pense que...
Sur le côté monstre.
Bon, je pense que c'est pas un monstre. Je pense que c'est un nationaliste un peu autocrate dans la bonne tradition à l'Est. Bon, c'est pas forcément la mienne. Mais je pense qu'il fait partie des dirigeants qui essaient de prévoir l'avenir. Et les flux migratoires incontrôlés sont pour moi la menace sur l'Europe numéro un pour les deux générations qui vont
suivre. Enfin, Orban, c'est plus loin. C'est pas le flux migratoire du tout.
La guerre civile.
On n'accepte personne. On est un pays chrétien. Et un pays européen et qui n'acceptera que des Européens chrétiens.
Il n'est pas le seul, les Slovaques, les Polonais.
Non, c'est tout. Pire chez les Hongrois, c'est inscrit dans la Constitution.
C'est la pensée barbelée avec l'âme de rasoir.
Vous êtes démocrate, je vous rappelle qu'il a été élu, Orban. Démocratiquement.
Personne n'a dit le contraire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on en fera un héros comme vous.
Comme Poutine, ça ne fait pas de lui un grand démocrate.
C'est pas un monstre.
Considération d'un certain nombre de souverainistes ou post-souverainistes pour des autocrates attendants. Dans ce dictatorial, genre Poutine, Orban, ne laisse pas de me perturber.
Non, mais à la décharge de Denis, l'autocratie gêne toujours moins quand elle s'exerce dans d'autres pays que le nôtre. Parler d'Orban ou de Poutine, finalement, ça ne mange pas de pain.
Et surtout ça, le Front républicain est en train d'exploser. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
On refait donc le monde avec Nicolas Demenac, Denis Tillinac, Roland Kayrol, Romain Atchuel à 19h48 sur RTL. Vous avez donc lu ce matin Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS. Très clair, les déclarations extrémistes de Christian Estrosi et de Xavier Bertrand sur les réfugiés empêchent désormais le Front républicain. Alors, est-ce que vous trouvez cette position du patron du PS fondée? C'est un risque? Est-ce qu'il fait le jeu du Front National sur les réseaux sociaux, Benoît?
C'est vrai que le ton a changé. Ce matin, Cambadélis tweet même, le ministre anonyme qui propose la fusion suicide au deuxième tour des régionales, soit il se nomme, soit il se la ferme. Suicide, c'est un tabac. En deux semaines, j'ai entendu deux socialistes défendre l'idée d'une fusion technique. Quelle est la position du PS? Alors maintien, les socialistes ne savent plus où ils habitent. Papa Hollande et Tonton Valls vont devoir taper du poing sur la table, regrette Guillaume. Dire que Cambadélis dénonçait le nini de Sarkozy en mars dernier, qu'il appelait le cyninisme, se moque Sony. Pauline, au contraire, trouve que Camba a raison. On ne s'allie plus à Estrosi, c'est le FN non assumé. Et Bertrand, ça vaut guère mieux, dit-elle. Ouf, confirme Lady Waterloo. J'aime pas Cambadélis, mais là, il remonte dans mon estime. Sinon, ça veut dire que l'UMPS est une vérité. Partage du gâteau du pouvoir, élimination des partis tiers. Oui, le meilleur moyen de faire grimper le FN était de fusionner les listes PS et Républicains. C'était minable et désastreux, assure aussi Jack. Pour Thème, Cambadélis prépare surtout la déroute. Les Républicains en position de force seraient bien d'accepter, assure-t-il. Alex, enfin, dit lui que de toute façon, Front républicain ou pas, le FN va tous les mettre d'accord. D'ici deux ans, Républicains et PS seront tous à Pôle emploi.
Romain, tu as la position du premier secrétaire du PS.
Elle est courageuse. Elle est tout sauf courageuse. Ah, elle est totalement politicienne. Il veut empêcher la disparition du Parti socialiste d'un certain nombre d'exécutifs régionaux. Ça, c'est évident. Maintenant, sur le fond, moi, je suis d'accord. J'ai toujours été contre le Front républicain. Je vais prendre une métaphore sportive. Quand vous jouez au tennis en face d'un type qui a un coup droit foudroyant, vous évitez de lui balancer toutes vos balles sur son coup droit, hein, tout simplement. Or, par le Front républicain, on accrédite, on consacre de manière tellement spectaculaire toute la stratégie et tout le propos et tout le discours du Front national qui consiste à dire « nous d'un côté et les autres en connivence, les incompétents, les malhonnêtes de l'autre », se constituant en quelque sorte en opposant à part à tout le système, c'est exactement ça que consacre le Front républicain. Donc je trouve que c'est la plus belle erreur à faire et je suis content qu'aujourd'hui les partis démocratiques s'en éloignent pour traiter le Front national comme un opposant normal et pas comme un opposant exceptionnel.
Je pense le contraire. J'ai dit, quand Nicolas Sarkozy s'est éloigné du Front républicain et a proposé le Nini, que c'était une erreur politique et surtout une erreur de stratégie électorale. Dans les élections à deux tours, il faut avoir, et rappelons-nous l'histoire, et notamment l'histoire des années 30, il faut avoir un adversaire principal. Et celui-là, en aucun cas, il ne faut le laisser s'approcher du pouvoir. Chaque fois qu'il y a eu des élus d'extrême droite élus en France, chaque fois, dans les élections parlementaires, c'est parce qu'il n'y a pas eu respect du Front républicain. Le Front républicain est la seule façon d'empêcher les élus extrémistes et de faire que ce soit des gens qui font partie de l'arc-en-ciel républicain qui arrivent au pouvoir. Je ne dis pas qu'ils font faire une stratégie nationale dans l'ensemble du pays et que ça serait valable pour une présidentielle, mais je dis que dans toutes les élections régionales, locales, municipales, donc régionales qui viennent, c'est une carte qu'on doit jouer dans les endroits où il y a un risque d'élection de l'extrême droite. L'extrême droite, mon cher Romain, ne me paraît toujours pas un parti comme les autres. Ça n'est pas un parti républicain au sens où le sont les Républicains,
Roland,
et l'Alliance de la
gauche. Vous avez
raison
sur le fait que ne pas respecter le Front républicain peut faire perdre quelques élections au profit du Front national, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, le Front national...
C'est pas quelques élections, c'est des élections régionales dans plusieurs des 13 régions. Non,
aujourd'hui, on parle du Front national comme un candidat probable de second tour à la prochaine présidentielle.
Mais il n'y a aucune espèce de risque d'élection d'un Front national à l'élection présidentielle. Aucune espèce de risque.
J'aimerais que vous ayez raison, mais ça me paraît un peu péremptoire.
C'est pas moi qui ai raison, l'ensemble des données d'études et de sondages le montrent clairement.
Bon, et vous ne pensez pas qu'on ait assisté à une certaine évolution quand même ces dernières
années ? Non, ces dernières semaines, non, pas du tout. Rien qui justifie cette espèce de revirement invraisemblable de Jean-Christophe Cambadélis.
Denis Tillenac, le Front républicain, il était cher à Jacques Chirac, non ?
Comment ?
Il était cher à Jacques Chirac, hein ?
Le Front républicain, il n'a jamais été en position de
le pratiquer.
De pratiquer le Front républicain.
En sa faveur.
Je suis d'accord sur le fait. Je suis d'accord sur l'évidence que les propos inconsidérés de Cambadélis font le jeu de Marine Le Pen. C'est toute sa stratégie, c'est toute la thématique de ses discours, c'est l'UMPS. Et s'il donne la moindre impression d'une connivence, on a un FN à 40% dans les plus brefs délais. Et je voudrais rappeler à Roland Kayrol que l'extrême droite, c'est pas la première fois que les socialistes qui ont besoin de l'extrême droite depuis 30 ans pour survivre politiquement, lui donne un coup de main. Mitterrand, en faisant la proportionnelle en 86, a fait rentrer une trentaine ou une quarantaine de députés 36 députés du Front National. J'ai pas eu l'impression quand même que des hordes nazies étaient arrivées par la porte de Pantin.
On lui a pas donné une majorité au Parlement. Il y a eu une majorité de droite au Parlement, une droite républicaine.
Ils sont comportés comme les autres, jamais vu. Ah bon, et on dit c'est pas un parti comme les autres, c'est vrai, aucun parti n'est comme les autres.
Nicolas de Ménage.
Ah oui, c'est pas un parti comme les autres, c'est un parti xénophobe. C'est quand même, il y a une différence vraiment radicale avec les autres. Et quand Romain dit c'est un opposant normal,
je dis qu'il faut le traiter comme tel.
Je ne crois pas. Justement, il a une exceptionnalité qu'il faut relever, qu'il faut combattre. Mais je voudrais revenir juste sur un point. D'où est parti tout ça pour essayer de comprendre ce qu'a fait Cambadélis, que vous accablez comme ça. Hein, c'est parti d'un ministre anonyme qui dit on va faire le Front républicain. Mais pourquoi ça s'est enflammé comme ça ? Eh bien parce qu'à gauche, il y a un défaitisme totalement hors de proportion. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils vont se prendre une défaite, mais ils imaginent une dérouillée. Eux-mêmes sont persuadés que peut-être qu'ils n'en ramèneront pas trois, ni même deux, ni même un, et même zéro. Je veux dire, donc, Cambadélis, il dit halte là, on va combattre d'abord au premier tour, et au second tour, on verra.
Voilà, c'est une réponse à ça, ce que vous dites.
Mais c'est ça. Il faut quand même voir les choses en face.
Sauf qu'ils disent pas au second tour.
Ils peuvent en sauver trois ou quatre.
Sauf qu'ils disent trois ou quatre républicains. Et c'est là qu'est l'erreur.
Non, ils peuvent effectivement, je suis d'accord, en sauver 3 ou 4.
Ils peuvent c'est même 3, gagner 3 ou 4 qui exercent une pression
considérable sur le parti pour essayer d'insinuer un discours selon lequel on pourrait être sympa avec l'UMP, à charge, enfin les Républicains à charge de revanche. On le sent bien. Ça marche jamais, ces trucs-là.
Comment ça marche jamais? Ça a toujours marché.
Jamais.
Mais oui,
ça a marché dans toutes les élections. Le Front républicain a marché dans toutes les élections.
Il continue à fonctionner.
Il continue à fonctionner chaque fois qu'il est mis en place.
Pour les électeurs de gauche, c'est vrai que les électeurs de droite sont quelque peu
moins bien pour les électeurs de droite, mais en majorité encore.
L'esprit républicain peut leur revenir.
Sauf qu'on n'est plus dans un Front national anecdotique.
Parce que
faut être
de gauche pour avoir l'esprit républicain.
Dirigé par un Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'on a bien vu.
Vous ne lisez pas assez le programme du Front national et les propos de ses dirigeants.
Pardon, Roland, je vous dis, on n'est plus dans un Front. Je vous ai pas dit qu'on était en Front National.
Vous terminez, Romain.
Je vous dis, on n'est plus dans un Front National anecdotique. On est dans un Front National qui est aux portes du pouvoir aujourd'hui.
Eh ben, raison
je
de
sais
plus.
Que vous n'en êtes pas d'accord, mais moi, c'est ma conviction.
Si c'était le cas, raison de plus.
Allez, on termine là. Merci à tous les quatre. Merci à Romain Hatchuel, à Roland Kayrol, à Denis Tillinac, à Nicolas Domenac. Dans un instant, le flash de 20h avec Julien Cellier. Et puis ensuite, on démarre la semaine, évidemment, du bon pied avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Bonsoir, les amis.
Bonsoir.
Bonsoir, Marco. Bonsoir à tous.
Bonsoir. La curiosité est un vilain défaut avec un sujet d'actualité.
Oui, on va revenir sur la façon dont la pluie se forme.
Ben voilà, c'est ça.
Hein, après. La pluie tombe elle tombe sur moi. Elle est beaucoup tombée sur les habitants de la région de Montpellier.
Hélas, elle retombera peut-être mercredi d'ailleurs.
C'est pas faux. Donc il y a l'épisode Cévenol qui a déjà été pas mal expliqué. Mais nous, on va carrément rentrer dans un nuage pour expliquer comment se forme la pluie.
Allez, on part dans les nuages.
Quelle forme ont les gouttes, à votre avis, Marc-Olivier Fogiel?
Quand elles tombent.
Ronde ou en poire?
En poire, non?
Eh ben, ni l'un ni l'autre.
Ah bon?
Elles sont carrées. Allez.
On apprend tout ça après le flash de 20h.
À tout à l'heure.